Bonjour à vous tous. Je vous invite, vous, si vous n'êtes pas encore là, ouvrir vos Bibles au dernier chapitre de l'évangile de Jean, Jean chapitre 21. Et on va commencer ce soir avec le verset 1. Donc Jean 21 et le verset 1 qui dit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Puis je vous invite à sauter juste quelques versets dans vos Bibles, jusqu'au verset 14 qui termine la première partie de ce texte, de ce chapitre. Je lis le verset 14. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Et nous voici enfin arrivés au dernier chapitre de l'évangile de Jean. Je suis juste curieux de savoir qui était là depuis le début de cette série. On a commencé en septembre quand même, pas beaucoup. Ouais, un certain nombre. Voilà. Les courageux qui ont persévéré jusqu'au bout. La semaine dernière, on a vu à quel point le chapitre 20, et notamment les versets 19 à 31, constituait une belle conclusion à ce livre. On a même appelé le chapitre 20 la conclusion de l'évangile de Jean. Et on peut se poser la question, ok, ben Nico, pourquoi parler de conclusion s'il reste encore un chapitre? Et justement, il y a pas mal de personnes qui suggèrent que chapitre 21, c'est ce qu'on peut appeler un épilogue de l'évangile de Jean. C'est vrai que le verset 31 du chapitre 20 nous donne l'impression que Jean arrive au bout de son argument. Avec le verset 31, il dit ceci, mais ceci. Et là, il parle de tout un tas de signes qu'il avait racontés au fur et à mesure de son évangile. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et on arrive à la fin de ce verset, on dit « Yes, c'est ça l'évangile de Jean !» Mais non, Jean continue avec encore un chapitre. Et la question peut se poser, eh ben, pourquoi ? Pourquoi ce dernier épisode où pour la troisième fois, Jésus se montre à un groupe de ses disciples, cette fois-ci sur les rives du lac de Tibériade, qui est un autre nom pour le lac de Galilée, ou dans certains textes, on parle même du lac de Génézareth. Les mêmes rives où l'histoire de Jésus avec ce même petit groupe de disciples avait commencé trois années auparavant. Donc deux questions qu'on peut se poser face à cet épilogue. Première question, pourquoi ? Pourquoi Jean ? Pourquoi est-ce que tu as rajouté le chapitre 21 qui ne semble pas contribuer grand-chose à ton argument principal concernant le fait de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. À quoi ça sert ce chapitre? Et puis, une deuxième question, à quoi bon pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ce chapitre contribue à nos vies? Avec ces deux questions en tête, je vais juste prier de nouveau, remettre ce temps d'enseignement entre les mains de Dieu. Et puis, on verra ce que ce chapitre apporte comme réponse à ces deux questions. C'est vraiment notre privilège et notre joie, Seigneur, de pouvoir consacrer un petit peu de temps chaque semaine à ce rassemblement pour te louer ensemble, pour exprimer nos prières, en s'encourageant mutuellement, pour nous mettre à l'écoute de ta parole, pour célébrer ensemble la Sainte Cène, se souvenir de la mort de Jésus à la croix, de sa résurrection, de son règne, pour anticiper ensemble son retour imminent, pour nous préparer justement pour ce jour. Et aussi pour nous stimuler mutuellement dans la mission que tu nous donnes. Allez annoncer cette bonne nouvelle de Christ ressuscité à toutes les nations. Merci Seigneur pour cet évangile de Jean, et pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies à travers notre étude de ce livre. Et je prie que par ton Esprit Saint, que tu nous aides à bien terminer notre étude, que ce chapitre nous encourage encore et encore, et que notre amour pour toi, pour notre Seigneur, grandissent, que notre ressemblance à toi augmente grâce à ce que Jean a à nous dire dans ces versets. Au nom de Jésus, amen. Je reprends la lecture en verset 2. Avec les disciples qui étaient là, Simon-Pierre, Thomas, Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée. les fils de Zébédée, qui ne sont pas nommés ici, mais c'est Jean et Jacques. Et puis deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Les filets vides, ça devrait nous faire penser à d'autres épisodes dans l'histoire de ces disciples. C'est vrai que ces sept disciples qui sont présents sont issus de la Galilée. On peut dire qu'ils sont tous galiléens, la région où Jésus lui-même il a grandi, le siège de son ministère pendant cette période de 3 ans. Et alors que Jean ne nous raconte pas ce détail en chapitre 20, en Matthieu 28, et puis aussi en Marc 16, après sa résurrection, Jésus donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. Il leur demande d'aller en Galilée, retourner là-bas et de l'attendre. Et donc en attendant, les disciples décident d'aller pêcher, de manger quand même. Mais ils pêchent toute la nuit sans prendre un seul poisson, des filets vides. Et Jean a clairement en tête un autre épisode raconté en Luc chapitre 5. On ne trouve pas cet épisode dans l'évangile de Jean parce que Luc, il a déjà bien raconté l'histoire. Et c'est tout au début du ministère de Jésus en Galilée quand Simon et les fils de Zébédée étaient là en train de pêcher. Ils ne connaissent pas encore très bien Jésus, c'est tout au début. Et comme ici en Jean 21, ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Ils se trouvent le matin, les filets vides. Donc je reprends, verset 4. « Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. C'est vrai qu'en verset 5, les disciples sont dans une situation de pénurie. Et Jésus, il le sait très bien, mais quand même, il leur pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les filets, les gars? Ben non, il n'y a rien. Et puis en verset 6, Jésus leur donne un ordre, qu'ils obéissent quand même. Et cet ordre transforme leur situation de pénurie en situation de plénitude. Ils ne parvinrent plus à retirer le filet tant il y avait de poissons. On revit exactement la même situation qu'on avait vécue tout au début en Luc chapitre 5, dans ce même endroit, le long des rives du lac de Tibériade. Verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui ne connaissent pas très bien l'évangile, cette phrase, le disciple que Jésus aimait, c'est une phrase qui revient tout au long de l'évangile de Jean et qui fait référence à Jean lui-même, à l'écrivain. Comment est-ce qu'on sait que c'est lui? Eh bien, on verra ça dans quelques versets. Verset 24, il va dire clairement, ce disciple que Jésus aimait, eh bien, c'est moi. C'est celui qui écrit. Donc alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et il se jeta dans le lac. Et ça me fait rigoler, parce que c'est typiquement Pierre. C'est typiquement l'apôtre Pierre. Simon-Pierre, qui a cette tendance à être très impulsif, il parle sans réfléchir. Il agit sans réfléchir. Et je ne sais pas s'il y en a ici qui s'identifient à lui, mais ceux qui me connaissent diraient, eh ben Nico, ça te ressemble quand même un petit peu. Esther est en train de dire, oui, c'est bien toi, Nicolas. Mais ce qui m'encourage quand même, ce qui me frappe en regardant la vie de l'apôtre Pierre, c'est son ardent désir d'être avec Jésus. Est-ce que vous voyez ça ici? Dès qu'il entend cette phrase, c'est lui, c'est le Seigneur, il prend ses vêtements. Il se lance dans l'eau. Et peut-être vous vous posez la question, mais Nico, c'est un peu bizarre quand même. Pourquoi est-ce qu'il s'habille avant de se lancer dans l'eau? Eh bien, à cette époque, ce n'était pas rare, surtout quand il faisait très très chaud, pour les pêcheurs de pêcher tout nu, quoi. Et c'est probable que Jésus ne voulait pas apparaître devant le créateur de l'univers sans vêtements. Donc il reprend ses vêtements, il se lance dans l'eau pour aller voir Jésus. Et on voit son amour profond pour son Seigneur, son affection incontestable pour Jésus. Et c'est vrai qu'en méditant ce texte cette semaine, et en voyant l'enthousiasme de Pierre, et en pensant aussi à ce qu'on avait vu avec Marie de Magdala qui pleurait devant le tombeau, et sa grande joie en voyant, en entendant son prénom, Marie, et en découvrant son Seigneur, eh bien, je peux vous dire, ça produit quelque chose dans mon cœur, ça me donne plus envie de le connaître, comme ça, ce même Jésus, et le Père qui l'a envoyé. Verset 8. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Effectivement, Jésus, il a préparé le petit-déj pour ses disciples qui sont probablement fatigués, frustrés, en tout cas qui étaient frustrés jusqu'à il y a quelques instants, et qui ont faim après toute une nuit de travail sans résultat. Je ne sais pas si vous avez jamais fait l'expérience de travailler toute une journée, travailler dur, arriver à la maison, ouvrir la porte, et il y a une belle odeur qui t'accueille en arrivant. Un repas qui est déjà prêt. Il suffit, ben je vois Luc qui réagit, ben ça parle à mes frères, qui apprécie un bon repas, qui est déjà prêt, et peut-être accompagné par une belle phrase, une des plus belles phrases qui existent dans le monde, à table. Et ben ça vous donne juste un petit aperçu du plaisir de ce moment orchestré par notre Seigneur, par le Christ ressuscité pour le bien physique, et aussi pour le bonheur de ses disciples bien-aimés qui ont travaillé dur sans rien prendre. Je reprends la lecture en verset 10. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 poissons. C'est marrant, ils avaient compté le nombre de poissons. 153 gros poisson à terre. C'est frappant de voir que Pierre tire tout seul ce filet. Ça nous donne quand même un aperçu de cet homme, cet homme pêcheur. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Et Jésus leur dit, venez, mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha. Il prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Et c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. C'est quand même intéressant de noter que Jésus invite les disciples à contribuer au repas. Il a déjà tout préparé, lui. Mais il dit, allez, prendre un petit peu de ce que vous avez pris, vous, avec vos filets. Bon, c'est lui aussi qui a pourvu ses poissons. Mais il invite les disciples à faire leur contribution à ce repas. C'est frappant de voir Simon-Pierre qui monte dans la barque, qui tire le filet plein de 153 gros poissons. Et si on avait des doutes concernant les liens entre ce passage et Luc 5, peut-être on se poserait la question, mais Nico, comment est-ce qu'on peut savoir que Jean avait cet épisode raconté par Luc en tête? Eh bien, une phrase assez intéressante qu'il inclut, qui fait le lien direct. Il dit que le filet ne se déchira pas. Et c'est un petit détail qui est donné en Luc chapitre 5, où on lit que le filet, à ce moment-là, se déchirait. Et Jean veut qu'on ait cet épisode tout au début en tête, même s'il a décidé de ne pas l'inclure dans son évangile. Il veut qu'on pense à ce moment où Jésus, pour la première fois, il appelle Simon-Pierre à le suivre. Et vous vous souvenez de ce qu'il avait dit à Simon à ce moment-là? Il dit, Simon-Pierre, n'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ces filets sont remplis d'hommes. En méditant ce texte cette semaine, je cherchais à imaginer, mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes des disciples pendant ce repas, assis probablement sur la plage, avec ce petit feu et les poissons, en train de manger avec Jésus qui distribue le pain et le poisson. Quels souvenirs reviennent pendant qu'ils mangent. Et peut-être, en plus que ce souvenir de ce qui s'est passé en Luc chapitre 5, il pense aussi à quelque chose qu'on a déjà vu en Jean chapitre 6, un autre moment où, pareil, Jésus avait distribué du pain et du poisson. Cette histoire commence avec les disciples qui n'ont rien à manger et qui ne savent pas quoi faire avec une grande foule de plusieurs milliers de personnes. Jésus demande en premier, « Eh bien, c'est à vous de donner à manger à cette foule. » Et les disciples disent, « Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire avec un si grand nombre ?» Alors là, pareil, comme dans cet épisode, Jésus pourvoit avec une abondance. Il y a un petit détail dans ce texte, que chacun prenait autant qu'il voulait, alors qu'au départ, il n'y avait rien. Est-ce qu'ils avaient un peu cet épisode en tête pendant qu'ils mangeaient? Je ne sais pas, peut-être. Mais je crois que ces versets, ces premiers 14 versets, nous donnent une espèce de parabole actée de quelque chose que Jésus, il a communiqué sa dernière soirée avec les disciples. En Jean chapitre 15, verset 5, il a dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, attrape beaucoup de poissons, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je pense qu'on est en train de vivre cette réalité dans cette expérience avec les filets d'un côté qui sont vides. On pêche toute la nuit sans Jésus et on n'a rien. Et puis, hop, en obéissant tout simplement à la parole de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Abondance, beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais en moi, avec moi, vous porterez beaucoup de fruits. Quand vous mettrez en pratique ma parole, vous prendrez un grand nombre de poissons. N'aie pas peur, Simon. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et comme c'est le cas aujourd'hui, ton filet sera plein. On reprend la lecture en verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» fait probablement référence aux autres disciples. Si vous vous souvenez, Pierre s'est comparé à un moment donné aux autres. « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, jamais Seigneur !» Et il pose la question, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ? Plus que les autres ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit, la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Et là, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Je pense que cet épisode, c'est vraiment le cœur de ce dernier chapitre. Cet échange avec Simon-Pierre. C'est vrai qu'on entend dans ces versets les échos de Jean chapitre 10, où Jésus s'est présenté, si vous vous souvenez bien, comme le bon berger. Celui qui appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Marie, on a vu il y a 2 semaines. Pierre, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis afin qu'elles aient la vie. Et qu'elles aient la vie en abondance, des filets pleins de gros poissons. Et puis on lit ceci en verset 16 de chapitre 10 de l'évangile de Jean. Il dit, c'est Jésus qui parle, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et on peut se poser la question, mais Jésus parle de quelle brebis à ce moment-là en verset 16 de Jean chapitre 10? Eh bien, la réponse est claire dans l'évangile de Jean et puis dans les autres évangiles aussi. Elles sont clairement les hommes et les femmes non-juifs qui entendront la bonne nouvelle de Jésus et qui croiront que ce qu'on a vu en Jean chapitre 3 est vrai, que Dieu, effectivement, il a tant aimé le monde, pas que le peuple juif, mais toutes les nations de la terre, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, on peut se poser une autre question aussi. Mais qui est Jonas? Pourquoi appeler Simon Pierre, Simon fils de Jonas ici? Qu'est-ce que ça contribue, surtout sachant que alors que Jésus est en train de dire Simon fils de Jonas, Jean l'appelle Pierre. Simon fils de Jonas, Pierre. Et on alterne entre ces deux noms. Pourquoi? Eh bien, d'un côté, on peut dire Jonas était le papa de Simon Pierre. Il est le fils de Jonas. Mais je pense qu'il y a autre chose. Peut-être que Jésus, il a en tête ici. Parce que Jonas, c'était aussi un prophète de l'Ancien Testament que Dieu a envoyé dans le monde, chez les non-croyants. Il a demandé à Jonas, si vous vous souvenez, d'aller annoncer un message. Un grand nombre de païens dans une des plus grandes villes païennes de l'époque, la ville de Ninive. Et Jonas, quelle était sa réponse quand Dieu lui a donné cette mission? Non, je ne vais pas, je sais ce que tu veux faire. Tu veux pardonner ces païens, tu veux sauver ces non-juifs. Et moi, je refuse d'y aller. Pour Jonas, l'Éternel, c'était le Dieu d'Israël, point. Et on verra, plus on avance dans le livre des Actes, plus tard, on verra à quel point même les disciples de Jésus avaient du mal à comprendre que cette bonne nouvelle, ce bon berger, il voulait faire de toutes les nations de la terre un seul troupeau. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Nourris mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis. Toutes mes brebis. Écoutez le programme que Jésus il a donné à ses disciples en Matthieu 28, après sa résurrection. Pareil, en Galilée, pas loin de ce même endroit. Il dit ceci à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Donnez-leur à manger. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ceci par moyen de mon Esprit Saint. On entend quelque chose de similaire en Marc chapitre 16, après la résurrection. Quand Jésus dit à ses mêmes disciples, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. » Et puis encore, en Luc chapitre 24, après la résurrection, Jésus dit ceci à ses disciples, ainsi, il est écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Et bien là, on a le même appel ici. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Nourris mes brebis, toutes mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est vrai que malgré toutes les belles promesses que Simon-Pierre il avait fait à Jésus, eh bien, même si tout ça t'abandonne, moi je ne le ferai pas. Vous connaissez, je pense, l'histoire. La nuit où Jésus était trahi et livré entre les mains des autorités civiles et religieuses, eh bien, Simon lui-même, il a renié Jésus trois fois. Et donc, dans les versets qu'on vient de lire, Jésus pose la même question trois fois à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Et cette interrogation qui rappelle le plus grand échec dans la vie de Simon, de Simon-Pierre, c'est clair que c'était douloureux pour lui. On le voit en verset 17, il était attristé par cette troisième fois. On imagine qu'au début, peut-être qu'il n'a pas compris tout de suite ce que Jésus était en train de faire, mais deuxième fois, et puis troisième fois, peut-être qu'il entendait même dans sa tête un coq qui chantait, un souvenir qui revient. Ah ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais Jésus n'est pas dans une démarche de rétribution ici. Il ne prend pas plaisir à faire mal à Simon-Pierre. Sa démarche, c'est une démarche de restauration. Et encore plus que ça, de commission. Il veut envoyer Pierre avec une mission et avec un mandat. Nourris mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis. Toutes mes brebis. J'aimerais conclure avec la lecture des derniers versets de ce chapitre. Et puis juste quelques réflexions personnelles. Quelques petits détails qui m'ont interpellé pour terminer. Donc verset 18. En vérité, je te le dis, c'est Jésus qui parle à Simon-Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu, probablement une référence à une crucifixion. Puis Jésus lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, encore une fois, celui qui, pendant le souper, la dernière soirée ensemble, s'était penché vers Jésus, avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc à quoi sert ce dernier chapitre? Je pense que ce dernier chapitre, c'était nécessaire pour qu'on sache, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Simon-Pierre? Comment est-ce que le Seigneur a fait pour restaurer Simon-Pierre après sa grande chute la nuit de son trahison? Et ça nous donne aussi un aperçu de ce que Jésus avait prévu pour le ministère de Simon-Pierre. Il voulait l'envoyer dans le monde, annoncer cette bonne nouvelle à des membres de toute la nation, toutes les nations de la terre. Puis deuxième question, en quoi est-ce que ça nous concerne? Juste quelques pensées rapides sur le plan personnel. J'espère que vous aussi, vous êtes interpellés de différentes manières par cette lecture avec juste quelques éléments d'explication. Et peut-être si cette semaine, dans les petits groupes, quand vous allez discuter ou si tout seul, vous méditez, je suis sûr que l'Esprit va vous parler aussi à vos cœurs. Voici juste quelques petits points que je retiens de ma méditation de ce chapitre cette semaine. D'abord, je suis frappé par la tendresse de Jésus avec ses disciples, l'aperçu qu'on a de son cœur. Ce cœur de berger, avec cette pêche miraculeuse, le petit déj sur la plage, la restauration presque chirurgicale, on dirait, de Simon-Pierre. L'aperçu de sa grande préoccupation avant son départ. Nourris mes agneaux, Simon. Prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis. On voit son amour, non pas simplement pour ce cercle intime de disciples, mais pour tous ceux qui croiront en lui, y compris nous. Donc je suis frappé par la tendresse de Jésus dans ce texte. Un deuxième point. Il y a quelques semaines, pendant notre assemblée générale, un des membres de notre église m'a posé une question très pertinente. Elle m'a demandé, c'est quoi un ancien? Et je crois que ce texte nous donne un élément clé de réponse à cette question. C'est quoi un pasteur? C'est quoi un ancien? C'est quoi un responsable d'église? Un ancien, c'est une personne qui, comme l'apôtre Pierre, est mandatée par le bon berger de nourrir les agneaux, de prendre soin des brebis, de nourrir le troupeau, ce seul troupeau qui appartient à un seul berger. Et j'aimerais juste vous attirer le regard sur un texte qui me frappe beaucoup, qui est écrit justement par Simon Pierre, des décennies après ce qu'il vit sur cette plage avec Jésus. Simon Pierre, qui avait un ministère dans les années, qui a touché des personnes qui venaient de tout un tas de nations différentes. Et il écrit sa première épître aux églises de l'Asie mineure, des églises dispersées dans tout un tas de nations différentes. Et il dit ceci en chapitre 5, ce même chapitre d'où vient le verset que Johan a lu tout au début de notre culte. Pierre dit « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. » C'est intéressant de garder Jean 21 en tête en lisant ces versets et sachant que c'est Simon Pierre qui parle. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Et je pense que c'est les modèles qui ressemblent, j'espère, à Jésus-Christ. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Et avec ce deuxième point en tête, je vous invite à prier pour nous, à prier pour les anciens. Quand je lis ce texte, je me dis, « Oh, mais Seigneur, je veux te ressembler. Je veux prendre soin des brebis. Je sais que ce n'est pas mes brebis, ce sont tes brebis. Aide-moi à faire le travail que tu m'as donné, à nourrir, surtout avec ta parole, ceux que tu nous as confiés. » Donc, priez pour nous qu'on gère avec fidélité cette charge et cette responsabilité pastorale. Et puis, juste un troisième point avant de conclure ici. En attendant le retour de Christ, le souverain berger, que le Seigneur me garde de me comparer aux autres. Je trouve ça intéressant que quand Jésus annonce l'avenir, il donne un aperçu de l'avenir pour Simon-Pierre. Et c'est un avenir qui implique de la souffrance. Que fait Simon-Pierre? Il regarde, il voit Jean derrière. Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Et un peu comme lui, je pense que je peux avoir tendance à faire un peu la même chose. Surtout quand je me retrouve dans des circonstances qui ne me conviennent pas. Des situations difficiles et je vois quelqu'un d'autre qui a un lot différent, une situation différente, que peut-être mieux que la mienne. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Et je suis frappé par la réponse de Jésus ici. En quoi cela te concerne-t-il, Nicolas? Toi, suis-moi. Et ce que j'espère pour moi et peut-être pour vous aussi, c'est en attendant le retour de notre souverain berger qui nous garde de nous comparer les uns aux autres, qui nous aide tout simplement à suivre, à obéir, à faire ce qu'il nous donne à faire. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, nous recevrons la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Et avec cette belle image, ce verset en tête, je vous invite à prier. Oh, face à un si beau texte, mon cœur est rempli de joie d'un côté, mais aussi de frustration et tellement de petits détails que j'aimerais bien creuser. Et j'attends avec impatience l'occasion de discuter en plus de profondeur avec mes frères et sœurs dans d'autres contextes cette semaine. Et j'aimerais te demander, en arrivant à la conclusion de ce message, Seigneur, de faire le travail par ton Esprit Saint pour que chacun, chacune ici aujourd'hui puisse retenir quelque chose d'essentiel peut-être. Une belle parole qui va répondre à un besoin ou peut-être à une question un souci, une parole pour encourager, une parole pour réconforter, une parole pour fortifier. Moi, je suis incapable, mes paroles n'ont pas cette puissance-là, mais tes paroles, Seigneur, tes paroles peuvent transformer nos vies. Et je prie que ce soit le cas pour chacun de nous aujourd'hui, en ton nom. Amen.